L'art sauve de la réalité, en tant que créateur, mais aussi en tant que spectateur. Quelle que soit son expression, la peinture, la photographie, la sculpture, la musique, la chanson, les mots, l'art nous procure des émotions uniques et donne sens à notre vie. L'art libère en inscrivant dans l'instant l'identification de nos émotions et de nos idées. Dans cette émission, je reçois des artistes pour partager avec eux leur univers autour de leur création et communiquer sur leurs actualités. L'Art en Partage est une émission réalisée et animée par Fabienne Louis. Je vous propose une balade au pays de notre invité. Nous allons picorer de ci de là dans son univers pluridisciplinaire, mais avant tout, c'est un homme libre. Né à Beauvais en 1964 à l'âge de 10 ans, il part avec sa mère vivre dans Delaware, petit état de la côte est américaine. Le temps pour sa mère de trouver un emploi stable et un logement, il est accueilli pour une année dans une famille d'accueil de 5 enfants. Direction le Midwest, dans un village du Kentucky. Puis il rejoindra sa mère à Seaford, dans le Delaware. Depuis son enfance, il est très doué pour le dessin. Il poursuit des arts marketing, mais on peut dire que sa première passion est la musique. C'est un vrai autodidacte, un bourreau de travail, un baroudeur qui, tout au long de sa vie, a su faire les bonnes rencontres, qu'elles soient littéraires, artistiques, mais avant tout humaines. Toutes ces rencontres l'ont conduit à se réaliser en tant que musicien, vidéaste et photographe. Et je ne vous en dis pas. Et je ne vous ai pas tout dit. Depuis 2015, il est réalisateur, vidéaste au sein de sa propre société Ubique Zone, nom qui lui va comme un gant, partant au pays de John Pitre. Bonjour, monsieur Jean-Michel Pitre, alias John Pitre.
Bonjour Fabienne.
Ça va ?
Ça va bien, et vous ?
Ouais, content d'être là ?
Content d'être là, oui. Oui, on est très bien ici.
Eh bien donc, tant mieux. Allez, donc c'est vrai que votre nom, est-ce que c'est déjà votre nom ? Je me suis vraiment posé la question.
Oui, effectivement, on me le demande souvent, John Pitre. En fait, c'est un vrai nom, mais j'en ai un autre, c'est Jean-Michel Pitre. C'est mon nom de naissance, puisque je suis né à Beauvais. Mais aux États-Unis, il faut savoir que Jean, c'est Jean, donc c'est un prénom féminin. Et Michel, c'est aussi un prénom féminin.
Yes.
Donc à l'immigration, ils m'ont demandé, enfin ils ont dit à ma mère, ils ont... préciser qu'il serait peut-être plus judicieux de trouver un prénom masculin, soit John ou Michael. Donc j'ai choisi John. Donc c'est devenu mon prénom américain qui est sur ma carte d'identité. Hein. Mais John sans H, en fait, j'avais dit à
Yon, ça
à
fait
l'agent
un peu Yon, c'est
ça
vraiment
fait
c'est
Yon.
Jean, ouais.
Ouais. Mais en fait, c'est en hommage. C'est parce que j'écoutais Yes à l'époque, le groupe de rock progressif, et donc il n'y avait pas de H. Je disais donc, ce serait John, mais sans H.
Ouais,
donc, ça les a fait rire.
Ils savaient ce qu'ils voulaient.
Voilà.
Alors, vous avez le don d'ubiquité comme les dieux, à savoir d'être présent dans plusieurs endroits différents en même temps. Hein. Et en fait, cette qualité exceptionnelle, on la retrouve à travers toutes vos activités, en fait. Hein.
Oui, c'est ça, j'ai plusieurs casquettes, oui, c'est vrai.
Vous êtes capable de faire de l'interview aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Finalement, c'est peut-être vous qui auriez pu faire l'interview à ma place.
effectivement, oui, quand je suis avec mon entreprise, je réalise énormément de choses moi-même. Lorsque c'est des petits budgets, bah forcément, j'arrive tout seul et je fais la lumière, la prise de son et effectivement aussi l'interview. Bon, l'avantage aussi, c'est que je peux faire aussi les interviews.
Alors,
en anglais. Voilà.
Ce qu'on va faire, avant de parler de vos activités actuelles, c'est on va parler de votre passé, en fait, d'où vous venez, hein, ce que vous avez fait, parce que c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est clair qu'aux États-Unis, les États-Unis, la vie passée là-bas pendant 10 ans, ça a laissé une empreinte indélébile. Qu'est-ce que vous avez aimé en particulier durant cette période ?
Bah, y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai aimées aux États-Unis. Les Américains sont. C'est vrai que souvent, on a tendance à les critiquer. On adore leur culture, mais on les critique. En fait, les Américains ont quelque chose de joyeux en général. Hein. C'est vrai que j'espère que j'ai aussi le côté français un peu râleur de temps en temps. Mais j'essaye, en fait, quand j'ai choisi de revenir en France, j'avais vraiment conscience d'avoir une double culture et j'aime prendre les bons côtés des Américains et le bon côté des Français et essayer d'éviter les défauts des Américains et les défauts des Français parce qu'en fait, il y en a des chez les deux.
Vous êtes un homme parfait, alors, du coup.
Je sais pas.
Bon, vous avez passé une grande partie de vos vacances quand même en été, hein, pendant que... Tous les étés, vous reveniez, en fait. Hein.
Presque tous les étés.
Oui. Et il s'est passé quelque chose en 1979, non ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment la première fois où je reviens en France, donc au bout de quelques années quand même. Et donc, j'ai 15 ans et vraiment, j'ai vraiment des coups de cœur énormément. La musique, en France, on n'écoute pas du tout la même... Enfin, presque, on écoute beaucoup de choses identiques des Américains, mais il y a des musiques que je ne connais pas. Le ska, Police, des choses comme ça qui ne sont pas encore connues aux États-Unis. Et donc là, j'ai vraiment des gros coups de cœur. Je découvre que la France est un pays beaucoup plus ouvert au niveau de la culture, même le cinéma, etc. Et vraiment, je passe un été qui a chamboulé vraiment... mon optique et puis mon écoute au niveau de la musique et de l'art en général.
C'est un choc émotionnel, en fait.
C'est un choc, oui, oui.
Ouais. Oui, oui. Et là, vous décidez de revenir ?
C'est ça. En fait, je rentre aux États-Unis et puis tout de suite, je dis à ma mère, bon, déjà, quand j'étais petit, je disais, j'irai vivre à la montagne. Et là, je lui dis, j'irai vivre dans les Alpes. Je retournerai en France. Enfin, c'est vraiment décidé. J'adore la France. J'ai un coup de cœur pour la France, en fait, vraiment.
C'est un con. C'est une histoire d'amour renouvelée, en fait.
C'est ça.
Ouais. Donc, en fait, votre vie passée à l'étranger, une partie de votre adolescence, vous a donné quand même le goût de la découverte. C'est vrai que quand on arrive dans une autre culture, un autre pays... On découvre avec des yeux émerveillés tout ce qui est nouveau. Ça donne en fait un mode de vie et de pensée aussi différent. On est beaucoup plus ouvert. Et j'ai envie de dire que par la suite, ça a été la suite logique en fait de votre vie. Pas de nomade, parce que bon, vous avez été stabilisé aux États-Unis. Hein, vous avez vécu dans une famille. Mais quand même, la recherche du Graal, c'est quelque chose qui vous a toujours poursuivi. La route, c'est quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup plu. Un petit peu à la manière... Alors, pas à la manière de Kerouac, justement, mais plutôt à la manière de Steinbeck.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est pareil. C'est cette même année aussi, quand je viens en France, il y a mon oncle, donc je reste chez ma grand-mère et je vois mon oncle qui est plus âgé, qui est un jeune hippie avec les cheveux longs et qui part sur la route et qui revient une semaine après, qui repart tout le temps et qui il vit pas sur la route, mais voilà, les voyages, etc. Et c'est vrai que je le voyais partir et je me disais, quand je serai grand, j'aimerais bien vivre sur la route. Et ensuite, effectivement, aux États-Unis, je découvre le livre de Steinbeck, John Steinbeck, où là...
Voyage avec Charley.
Voilà. Et donc, il part effectivement vivre sur la route en van avec son chien. Et la route, pour moi, n'était pas concevable sans van, en fait. Je voulais vraiment être au volant. Et c'est pareil, je voulais partir seul, vraiment seul, pour découvrir un peu la solitude.
Accompagné de votre chien, quand même.
Contemplatif, et effectivement, faire des randonnées avec mon chien. Donc, voilà,
qui s'appelait
Chagall. Mm. Et voilà, pour aller un petit peu plus loin sur Chagall, c'est vrai que c'est pareil, c'était un vieux rêve d'avoir un berger allemand, en fait. Là, maintenant, depuis, j'achète pas de chien, j'adopte à la SPA. Mm-hmm. Mais là, c'est mon premier... Voilà, j'ai vraiment acheté mon chien chez un éleveur. Je voulais un berger allemand et il est resté avec moi pendant 10 ans. C'était vraiment fabuleux. Et donc, c'était vraiment une belle découverte, la route. Donc, vous voulez que je parle de la route
maintenant ?
Non,
on va... En fait, on est en train de parler de Chagall, de votre chien. Donc, on sent qu'il y a de l'émotion dans la voix.
Oui, oui, oui.
Je suis en face. Et donc, se mettre en voyage, c'est vouloir se mettre en marge de la société, un petit peu, non ? Enfin, Vous m'avez... Bon, vous m'avez effectivement dit que bon, votre truc, ce n'était pas les études. Et vous, de toute façon, les sentiers battus, bah, ce n'est pas votre destinée. Donc, ça a été un vrai apprentissage de la vie, en fait. C'est 7 années passées sur la route.
Oui, en marge de la société, oui et non. Effectivement, je voulais m'éloigner de la société de consommation. J'ai vraiment, pas une prise de conscience, mais un ras-le-bol, en fait. Je voulais vraiment me détacher. C'est pas seulement vivre sur la route, mais je voulais vraiment me détacher du matériel. Parce qu'en fait, j'étais à Grenoble, je travaillais, j'avais tout ce qu'il faut, tout le confort. Je vivais dans une grande ville avec toutes les sorties possibles pour un jeune homme que j'étais, qui adorait faire la fête. Et en fait, j'étais pas heureux. Vraiment, j'étais pas... super, super heureux. Et donc, je pensais à tout ça.
Vous avez voulu retrouver votre esprit de liberté.
C'est ça. Et donc, sans vouloir vivre en marge de la société, j'ai voulu vivre en marge de la société de consommation, en tout cas. Mm-hmm. Donc, je pars en van et je décide de pas de télévision, pas de chauffage. Et voilà, ça, c'était vraiment... effectivement, j'avais aussi eu des lectures un peu bouddhistes, etc. Mm-hmm. Même si j'étais pas hyper croyant, j'aimais bien cette démarche de pourquoi on souffre avec la possession. Donc, si on veut plus souffrir, on enlève... l'objet de la souffrance. Et moi, mon objet de la souffrance, c'était voilà, toujours vouloir posséder. On n'est jamais satisfait, ça, c'est connu. C'était vraiment pour me détacher de ça. Mais je vivais, des fois, on fait beaucoup de rencontres et des personnes me disaient, mais t'es un marginal. Je dis, effectivement, je me considérais pas du tout marginal.
Et en fait,
pas du tout.
C'est Mathieu Ricard que je suis en train d'interviewer là. Mathieu Ricard sort de ce corps.
Oui.
Donc la route, ça va durer 7 ans,
oui.
14 cahiers de voyage. Mmh. Et je pense qu'il va y avoir des trésors quand même dans ces carnets, non?
Oui, en tout cas des trésors pour moi.
Racontez-nous un petit peu ce qu'il y a dans ces carnets.
Eh ben en fait, j'avais donc pris l'habitude de faire. Bon, j'achetais. Pour ça, je faisais quand même partie de la société parce que je consommais. J'achetais mon journal tous les matins. J'allais au cinéma. J'achetais mes CD. Et donc il y a beaucoup de coupures de presse. Voilà, sur l'événement marquant de l'époque. Voilà, je voulais avoir un témoignage de l'époque, de la société dans laquelle. Mmh. Je vivais justement.
Bah oui, voilà.
Et puis voilà, c'était la découverte de la France, donc des photos d'édifices religieux, puisque je découvre l'art roman. Donc ça m'a passionné. Donc c'est dans beaucoup de carnets de voyage. Et c'est vrai que quand je suis revenu des États-Unis. Je suis venu en France et on me disait pourquoi t'es revenu. Et puis en général, je disais parce que y a du bon fromage.
Ah oui, là, le coup des
et donc,
la collection.
Et donc du coup, voilà, à chaque fois que j'arrivais quelque part, j'allais dans un supermarché, j'essayais de trouver des camemberts avec des.
C'est vrai que c'est la croix et la bannière hein, pour trouver un bon camembert là-bas. Hein.
Avec des labels, avec des marques qui sont pas très courantes. Et du coup, j'en trouvais quand même. Hein, et donc, je collais ça dans mes carnets de voyage.
C'est une collection collector. En fait, je suis sûre que ça vaut une fortune là, cette collection de boîtes de camembert.
Oui, certainement.
Oh, bah oui. Comment vous faisiez quand même pour vivre ?
Ben en fait, au début, étant musicien, guitariste, etc., j'ai acheté une mandoline. Mmh. Et donc, j'ai commencé à jouer de la mandoline dans la rue. Et ça ne marchait pas trop. Et un jour, je fais un petit marché de village. Et là, ça cartonnait. Donc du coup, avant la mandoline, je dessinais. Hein, puisque comme vous aviez dit, je dessine depuis tout petit. Et donc, je dessinais je faisais des copies de l'art de Renaissance italienne. Et donc, je vendais ça. À l'époque, on n'était pas encore passé à l'euro. Donc, c'était 10 francs. Et donc, les pièces de 10 francs, boum, boum, ça tombait, quoi. J'en vendais. Mais à chaque fois, j'étais délogé par la police parce que je n'avais pas de patente, comme ils disaient. Mm-hmm. Et donc, du coup, j'achetais une mandoline. Et là, j'étais beaucoup plus libre pour jouer où je voulais, puisque je ne vendais rien. Et donc, je vivais avec la mandoline. Et pareil, ça marchait bien. Et donc, le matin, c'était la mandoline pour l'argent. Le midi, on allait acheter... Enfin, sur les marchés, souvent, c'était les marchés. Donc, je faisais le tour du marché avant la fermeture. Ouais. Et ensuite, on mangeait. Et avec mon chien, on partait en randonnée.
Eh bien, quelle vie. Et là, vous avez découvert, donc vous avez dit l'art roman, mais aussi il y a eu des peintres, Kandinsky, Chagall, Pierre Soulages.
Oui. Ben, en fait, voilà, il y a beaucoup de peintres que j'adorais, que j'avais jamais vus. Donc le but, c'était aussi de faire mon parcours par rapport aux expositions. Mm-hmm. Et Kandinsky, j'adorais Kandinsky. Et il y avait une exposition à Martigny, une fondation, je ne me rappelle plus, Gianada, quelque chose comme ça. Une fondation...
Gianada.
C'est ça, Gianada, à Martigny, en Suisse. Mm-hmm. Et donc j'y suis allé découvrir les Kandinsky en vrai, ça m'a vraiment fasciné. Et Chagall pareil, je le connaissais puisque j'avais nommé mon chien par rapport à Chagall, donc là je sais plus où c'était, peut-être à Paris, et j'ai découvert, je connaissais moins, Pierre Soulages. Et là, Pierre Soulages, pareil, ça...
Un choc.
Oui, vraiment, c'était...
La lumière.
Et là, je le défends souvent quand des personnes me disent « Oui, Pierre Soulages, c'est que du noir. »
Ben non.
Non. Il faut voir Pierre Soulages, voilà. Il faut voir sa peinture.
Il faut aller à Rodez.
Et voilà, c'est ça. Et il faut marcher devant l'étoile, et c'est magnifique parce que c'est un jeu de lumière, en fait.
C'est magnifique, Pierre Soulages, c'est vrai. Là, pour le coup, j'ai aussi découvert, je le dis, il y a peu de temps.
Oui.
On s'intéresse des fois aux gens lorsqu'ils partent. Et c'est un choc. Voilà. Est-ce que sur les marchés, il y a aussi de très, très belles rencontres? Parce que je crois que vous avez fait des rencontres avec un musicien, avec... dites-nous.
Oui, c'est ça. En fait, les marchés de campagne, puisque c'était vraiment souvent...
Dans le sud de la France,
Des petits marchés, en Bretagne aussi, enfin un peu partout en France.
D'accord.
Et l'avantage de ces petits marchés, mais aussi, aussi dans le sud, c'est vrai que beaucoup dans le sud, on fait des rencontres, donc souvent il y avait des agriculteurs, petits agriculteurs, souvent bio, et donc ils m'invitaient chez eux, il y avait des fêtes de village, quand il y avait des fêtes de village, voilà, j'ai participé à des choses, donc c'était vraiment un lieu de rencontre. Et effectivement, je rencontre aussi un musicien qui produit des disques, qui est distribué en Afrique, donc il mélange la musique...
Michel Mann.
Voilà, Michel Mann.
New Age.
À Fort-Calquier. Mm-hmm. Et donc, il me repère, on discute, on sympathise. Et il me demande si je voudrais venir jouer de la mandoline sur son album. Mm-hmm. Donc, des petites improvisations, des petits solos, en fait. Lui, il compose la musique au piano, les accords, etc. Et puis, il me laisse libre d'improviser, en fait, des petits solos. Donc voilà, ça c'était une belle rencontre. Ouais. Ensuite, à Aix-en-Provence, je rencontre Ingrid Franqui, une jeune réalisatrice. Et là, je pars pour représenter un de ses films au Festival de films de Moulins. Mm-hmm. Et là, je fais encore des rencontres. Donc c'est vraiment des fils en aiguille. Je fais vraiment des rencontres qui m'amènent à Paris et où je commence à composer des musiques pour des étudiants... une école européenne de cinéma et
ECAR. EICAR.
Ouais.
Ils font des courts-métrages, en fait. Ils sont plus sur le court-métrage.
Voilà, c'est un cursus de 3 ans. Donc, en fait, tous les ans, il constitue une équipe au sein de la classe. Il y a un réalisateur et bien sûr tous les techniciens.
Et du coup, vous êtes formé, en fait, à leur contact, travaillant avec eux.
C'est ça.
Ils vous ont fait travailler en tant que directeur artistique, non?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que avec Romain Mességuet, c'est vrai, c'est un jeune avec qui je sympathise au Festival de Moulins. Qui est encore lycéen en plus, donc à Grenoble où j'ai vécu, c'est ça qui est incroyable. Donc du coup, je fais des petites musiques tranquilles pour ces petits courts-métrages qu'il fait comme ça à la maison, et du coup, c'est une collaboration artistique, on s'entend super bien humainement, on devient vraiment des amis très proches. Donc je monte à Paris lorsqu'il rentre dans cette école, donc je fais les musiques de ses films, et c'est un des étudiants les plus brillants de sa classe, et donc je fais toutes ses musiques, et au bout des 3 ans, la troisième année, la réalisation du film n'est pas en numérique, mais en pellicule. Mmh. Donc c'est lui qui est choisi pour faire un film en 35 mm. Mmh. Donc là, c'était vraiment superbe parce que, voilà, un plateau cinéma qui est incroyable parce que 35 mm, ça veut dire des projecteurs, ça veut dire beaucoup de lumière, ça prend pas la lumière comme le numérique. Je collabore, bien sûr, à la musique et je suis curieux. Donc je viens en salle de montage, le montage m'intéresse énormément. Et comme on s'entend super bien artistiquement, il me demande d'être, depuis le début d'ailleurs, depuis la première année. Donc pendant 3 ans, je suis un peu son conseiller artistique sur ces tournages. Donc il y a des petits films de préparation en attendant le film de fin d'année. Et ensuite, je collabore également avec d'autres étudiants.
Comme Mathieu Rigaud.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Eh bien, dis donc, quel parcours. Vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM dans l'émission Art en Partage, consacrée à John Pitre, photographe, vidéaste, comme vous l'avez compris, et musicien également. La musique a véritablement influencé votre vie. Elle fait partie de votre ADN et vous êtes en outre un fan inconditionnel de Talking Heads. Pourquoi ?
Ah oui, Talking Heads, c'est quelque chose de... ah, c'est dans ma peau, quoi. C'est vraiment... c'est vrai que je parle de mes 15 ans, mais je pense que cette année-là, cette année 79, j'ai 15 ans en France l'été, et à l'automne, j'écoute une musique à la radio. Comme quoi, à la radio, c'est top.
Eh ouais.
J'entends une musique que je ne connais pas du tout, gros coup de cœur. Donc le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je vais chez le disquaire, j'achète l'album. Et puis, en fait, je me rends compte que j'écoute et ça ne me plaît pas.
Ouais.
Ça ne me plaît pas. Alors je suis très 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 déçu.
Ouais.
Et puis le lendemain, enfin au lycée, une musique me revient.
Et
là,
je
retourne à la maison après le lycée. Et là, j'ai une découverte. J'adore l'album. Parce que justement, c'est assez particulier. Mais j'adore. Et en plus, la pochette est magnifique.
Elle est magnifique, ouais. Vous me l'avez fait voir. Elle est superbe, cette pochette. Hein. C'est plein de photos et ça vous a donné le goût, peut-être aussi, de faire de la photo. Et on verra par la suite. On écoute le choix musical de John Pitre dans son émission et on écoute Talking Heads dans This Must Be the Place. La musique vous a accompagné, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, hein, tout au long de votre vie. Et à force d'en écouter, c'est logique, hein, vous avez voulu en créer.
Oui, oui, oui.
On est en train d'écouter un morceau intitulé Wintering Tableau numéro 3, qui est tiré d'un album éponyme qui a été composé entre 2008 et 2010. Alors, ce sont de vrais morceaux de méditation. Moi, je l'ai écouté et voilà, on est en état méditatif. Bien sûr, wintering, l'hiver, hein, et donc c'est une saison que vous affectionnez particulièrement.
Oui, c'est vrai que l'hiver, j'entends souvent des gens se plaindre, il fait froid, surtout en Picardie, ah, il fait froid, il pleut, mais moi j'adore toutes les saisons, et notamment l'hiver, hein, vraiment. Je ne partais pas souvent en vacances l'été, mais j'allais en classe de neige. En France, donc. Et pareil, encore un coup de cœur, Morzine, c'était vraiment un truc incroyable.
Ouais.
Et donc, j'ai toujours aimé l'hiver, j'ai toujours aimé tout ce qui est trait au froid, Shining, le film de Kubrick, j'ai adoré cette ambiance froide. Et j'ai voulu faire 10 tableaux sur l'hiver, en fait. Vraiment,
Il est bien réussi et on en écoute le dernier morceau. Album Wintering Tableau, il y a donc cette chanson que je trouve particulièrement réussie, j'aime beaucoup. Il s'appelle L'éolienne solitaire, donc, et c'est une ode, mais une véritable ode pour éveiller les consciences à l'écologie, non ?
Oui, absolument.
Vous êtes un militant ?
Je suis un militant, j'ai aucune carte de parti, je manifeste pas, mais je suis un militant au quotidien. Là, vraiment, vis-à-vis des proches qui sont pas forcément sensibilisés à cette cause, c'est quelque chose que je porte très fort. Et donc voilà, je suis un militant, on va dire, du quotidien. Et aussi, par contre, je milite, pour aussi le bien-être des animaux, ça c'est quelque chose de très important pour moi.
Oui, ça va avec. Hein.
Ouais.
C'est ce qui constitue notre terre, mm-hmm, avec mm-hmm. ses habitants.
Voilà. Et c'est vrai que l'éolienne, c'est aussi, ça date de 2011 d'ailleurs, merci Fabienne, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu.
Moi, j'aime beaucoup cette chanson.
ça fait bizarre de réécouter. Et déjà, même à l'époque, hein, il y avait déjà les détracteurs, j'aime pas dire ça, mais les personnes qui trouvent que c'est pas beau, etc., ouais. etc. Alors que pendant des années, on a construit des usines, notamment nucléaires, on a construit des lignes électriques il y a très très longtemps, ça dérangeait personne. Et donc, on va en Scandinavie, au large de l'Angleterre, il y a des champs d'éoliennes. Mmh. Moi, j'ai vu ça, je trouve que c'est beau.
Aux États-Unis aussi, ils ont été précurseurs.
Oui.
Hein.
Ouais. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on râle. Moi, ça, c'est le côté français, donc je le comprends.
Et on va continuer à découvrir votre univers créatif, musical. En 2012, vous formez un groupe avec le batteur Julien Masset. Il s'appelle Shining Box. Vous êtes des transfuges du groupe Mississippi Shining, formé en 2008. C'est donc du rock progressif.
Oui.
Alors ?
En fait, Shining Box, avec Julien, effectivement, on vient de Mississippi Shining tous les deux. Et bah, lui comme moi, on a eu des... C'est compliqué le rock. Hein. Il y a des caractères forts, on s'engueule souvent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui se séparent, etc. Donc on a fait tous les deux partie de groupes qui se sont séparés.
Ouais.
Donc on s'est trouvés et on s'entendait bien. Et j'avais proposé à Julien... en fait de créer un duo puisqu'on s'entend bien, si on refait un quatuor, si c'est encore pour s'engueuler ou... Donc là on a porté un projet assez de manière assez professionnelle.
Oui, parce que vous avez fait la première partie de Cats and Trees.
Oui.
Ah, pas mal, hein.
Oui. On était suivis à la salle Saint-Cloud dans les Yvelines, dans le réseau Le Cri. Et du coup, ça nous a permis de faire des premières parties et de faire des résidences, donc un album et puis une mini tournée aux États-Unis. Je dis même une mini tournette parce que c'était vraiment que 2-3 dates, voilà.
Mais vous êtes donc le chanteur.
Oui.
Hein, et puis le bassiste.
Oui. Ouais. Ouais. Donc on est un duo. Donc Julien qui est batteur et qui joue du pad. Hein, donc à côté de sa batterie, il y a un pad. Donc ce sont des multiples pads avec ses baguettes. Paf, il lance des sons.
Mm-hmm.
Et moi, j'ai ma basse, ma voix. Et au pied, j'ai une machine qui envoie justement des samples, des nappes de synthétiseurs.
Ouais, c'est ce qu'on entend,
que je pré-enregistre.
On a l'impression que vous êtes beaucoup plus que ça, en fait.
C'est ça. Mm-hmm. Alors des fois, on joue sur une musique qui est vraiment enregistrée, comme ce qu'on entend là. Et puis des fois, on joue presque... On rejouait à deux, sans pratiquement aucun autre effet.
On écoute ? Écouter la chanson Yawana du groupe Shining Box que tu avais formé à l'époque avec Julien Masset, et le titre c'est Yawana, pardon, et l'album c'est La Quête Intemporelle. Voilà. Alors, pour composer les chansons, il faut écrire la musique, il faut écrire des mots, et des mots, la suite logique, c'est la mise en écriture, quoi.
Oui, c'est ça. J'ai toujours aimé écrire les textes de chansons, ça c'est, et puis toujours raconter des histoires. Donc pour trois minutes de musique, il faut aller très vite pour écrire une petite histoire. Mais vraiment, j'aime écrire des histoires, comme ce qu'on vient d'entendre de Shining Box.
Mm-hmm.
Et donc, pareil, j'ai toujours voulu écrire. Et donc, je m'y suis mis un peu sur le tard. J'ai commencé à écrire, en fait, en 2008. Et le confinement, vous savez ce que ça a été, le confinement. On fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Donc, on fait du rangement, etc. C'est ce que j'ai fait sur mes ordinateurs.
Et là,
et donc, je retrouve, effectivement, je dis, tiens, c'est vrai que j'avais commencé à écrire, donc je lis et du coup ça me plaît parce que je découvre quelque chose que j'ai écrit il y a longtemps, donc vraiment je suis complètement vierge devant le texte, hein. Vraiment je découvre ça comme si c'était pas moi presque. Ça me plaît tellement, je me dis il y a peut-être quelque chose à faire, et du coup j'ai repris, mais à fond depuis le confinement, enfin à fond, j'ai un peu arrêté en 2021, j'ai une année très très chargée, mais voilà, là, j'ai voulu continuer à écrire ce livre.
Ouais. Alors, donc, c'est un roman fiction, on va dire, plutôt.
Voilà, une auto-fiction.
Mm-hmm. Et ça parle de votre relation fusionnelle avec votre mère et les premiers mois, donc, qui se sont passés dans la clandestinité aux États-Unis.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs fils conducteurs. Mm-hmm. Cette relation avec ma mère... très, très fusionnel, puisque je n'ai pas connu mon père, pas de frères et sœurs. Déjà, quand on était en France, on partait voyager en Espagne, en Angleterre, etc. Donc, et puis, je sortais beaucoup. J'avais 5 ans, j'allais en boîte de nuit avec la bande à ma mère.
Voilà. Donc, on comprend maintenant.
On a une... voilà, on a une
je blague.
Non, mais effectivement... Et donc oui, lorsqu'on arrive aux États-Unis, et ben, au début c'est beau, c'est bien, hein, tout se passe bien, un peu justement comme une histoire, hein, donc là j'invente rien, tout se passe bien et à un moment donné les visas expirent, ma mère n'a pas trouvé de solution pour avoir des papiers d'immigration ou avoir un visa plus long, parce que c'est très difficile dans les années 70, hein. Et donc du coup à un moment donné elle risque d'être dénoncée par quelqu'un et ouais. Donc on part, hein, mm-hmm. puisqu'on on vivait chez une amie à ma mère qui était française, hein, de Beauvais également. Enfin bref. Et donc du coup, on part sur la route de maison en maison. On reste pas plus d'une semaine parce que elle veut pas être dénoncée justement. Donc au bout d'une semaine, il faut trouver toujours. Enfin, pendant une semaine, il faut qu'elle trouve. Un nouvel endroit.
Ouais, ouais.
Donc autant elle a vraiment peur, elle a des angoisses parce qu'elle c'est une femme. C'était une femme indépendante. Certes, mais femme forte, mais en même temps très angoissée par, ouais. par la situation. Ouais. Et elle voit son fils qui, au contraire...
non, lui, il est... Ah, oui, il est heureux comme un pape.
Voilà, c'est ça. Et donc, et donc du coup, effectivement, ça stabilise en fait un peu son angoisse. Elle est un peu moins angoissée. Et du coup, je raconte 6 mois à peu près 6 mois plus... d'errance comme ça à travers 5 États des États-Unis sur la côte Est et du côté du Midwest.
Eh ben ouais. Quel souvenir hein, quand même.
Oui, 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 oui.
Parce que c'est quand même un âge où on se souvient en plus quand même.
Bah, en fait, c'est vrai que l'avantage, comme elle disait toujours, en 2 ans, on a déménagé 14 fois.
Oui.
L'avantage, c'est qu'on a des repères lorsqu'on bouge comme ça beaucoup. On a des repères. Je sais que telle année c'était là, là on était chez un tel, là chez un tel. Et donc, j'ai des souvenirs très, très forts. Comme si c'était hier. Oui, c'est vraiment imprégné.
On vit les choses aussi pour la première fois. C'est ça qui est quand on est en voyage. Hein. On est d'autant plus marqué quand même.
Voilà, c'est ça.
Par la découverte, par la nouveauté.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, en plus, voilà, j'étais quelqu'un de curieux. Du coup, voilà, je découvre, j'adore, même les premiers amours, enfin tout, quoi, vraiment. Et puis le Midwest, parce qu'on était sur la côte Est, donc on arrive j'arrive dans une région au sein d'une famille,
oui.
pendant une année scolaire. Oui. Donc, je suis scolarisé, en fait. Hein. Mm-hmm. Donc, je raconte tout ça. Scolarisé de manière... voilà, on n'a pas les papiers, hein, mais dans une toute petite bourgade du Kentucky. Mm-hmm. Et du coup, voilà, il y a une solidarité qui fait que j'intègre quand même une école. Donc, sans ma mère, pendant une année scolaire. Et ouais. pareil, je m'épanouis, quoi. Je suis super heureux. J'adore ça. Je vis dans une famille nombreuse.
Elle a su vous mettre en sécurité, en fait.
Pendant ce temps-là, voilà, elle cherche une solution qu'elle trouvera, plus ou moins. Voilà, je raconte tout ça.
Alors moi, j'ai eu l'occasion de lire un extrait hein, de ce projet. Il est très abouti. C'est franchement ce que j'ai lu. Il n'a pas été écrit à la première personne parce qu'effectivement, c'est une auto-fiction. Mmh. Et on devine que sous les traits de Lonnie, que ce petit garçon, bah, qui est en plus très très attachant, bah, c'est vous. Et il y a un ton humoristique, c'est trop mignon. On n'est pas dans le descriptif des personnages, hein, et c'est ça qui le rend vivant, d'autant plus vivant. On rentre tout de suite dans l'action, et donc les situations arrivent les unes derrière les autres. Il y a un goût de la vie dans ce livre que j'ai trouvé marquant. C'est-à-dire qu'on découvre par les yeux de ce petit garçon la vie. Mmh. Et là, c'est vraiment très bien retranscrit. On est vraiment dedans. Donc, bravo. Mais alors, le fait de ne pas... Alors bon, après, on en a parlé, on va en parler là, justement, mais le fait de ne pas décrire les personnages, ça ressemble un petit peu à ce que vous aviez découvert au travers de l'écriture de Philippe Djian, peut-être.
Oui. Hein. Oui, oui, oui.
D'accord.
Oui. Oui, Philippe Djian, j'ai toujours aimé. Quand je reviens en France, je veux lire, donc je découvre Rousseau et Philippe Djian, pour un contemporain. Et là, Maudit Manège, c'est un livre extraordinaire où vraiment il n'y a aucune description des personnages, ou presque pas en tout cas. Il n'y a pas de lieu non plus. Bon, moi, il y a des lieux hein, dans ce que j'écris, c'est important. Mm-hmm. Mais même pas de lieu. Hein. Philippe Djian écrit, voilà, il y a une façon d'écrire qui n'est pas conventionnelle. Et je me suis dit, on peut tout se permettre en fait dans l'écriture, dans l'art en général, bien sûr. Et donc, voilà, pas de lieu, pas de description des personnages.
Et ça va permettre en fait au lecteur de se faire sa propre image. Quoi,
voilà,
fait.
C'est ça. Et moi, je préfère développer les scènes qui sont pour moi très importantes hein, dans un film, dans un roman. Les scènes, c'est important, donc je décris des scènes qui se sont réellement passées, mais en même temps j'en crée d'autres, hein, puisque c'est une autofiction, j'en crée d'autres pour l'intrigue du livre qui sert à cela, et bien sûr j'ai une bonne mémoire mais je ne me rappelle pas de tout bien sûr, donc je crée et ce que j'aime aussi dans l'autofiction c'est que voilà, il y a de la création, c'est pas que raconter et donc je crée des scènes et ça me plaît, et c'est peut-être pour ça que vous trouvez ça vivant, parce que on passe de scène en scène, quoi. Et la troisième personne, c'est écrit la troisième personne parce que, bon là, je vous ai donné le début.
Oui.
Hein, là, c'est un peu une introduction au livre, à l'histoire. Mais c'est vrai qu'ensuite, la troisième personne me permet de développer le mental. On rentre dans la tête de ma mère.
Ah, on est vraiment dans le ressenti.
Mm-hmm.
Voilà.
Oui, c'est ça.
C'est les émotions. Mm-hmm. Le ressenti.
Oui, c'est ce que je souhaite. Donc, vraiment, la troisième personne, on peut justement partir dans le mental des personnages. Pour moi, c'est super important.
Vous m'avez parlé d'un livre aussi du jardin, des jardins.
Oui, ben en fait, oui, Alexandre Jardin, j'aime beaucoup. D'ailleurs, à l'époque, il était assez, il avait énormément de succès, hein, un écrivain populaire, Alexandre Jardin, mais souvent qui était quand même critiqué par la critique littéraire, souvent parce que il faisait pas les choses conventionnellement. Voilà. Voilà. C'était vraiment pas conventionnel. Il faisait des choses. C'était de la. En fait, il écrivait il écrit toujours des livres. Des histoires qui se passent dans le temps réel, hein, mais des choses vraiment improbables. Et donc, il était critiqué par rapport à ça, alors qu'en fait, on rentre dans ces livres. Et justement, c'est des livres faits. Ce sont des livres qui sont faits que de scènes, de scénettes, etc., avec une intrigue. Voilà, j'adore Alexandre Jardin, oui.
Est-ce que, bon, avant tout, on a compris, c'est un hommage à votre mère, en fait, ce livre ?
Oui. Oui, c'est un hommage à ma mère. En fait, je l'avais donc commencé en 2008 parce que ce qu'on avait vécu, c'est grâce à elle. En fait, elle est décédée en 2018. Donc forcément, le confinement arrive, tout ça s'enchaîne. Mmh. Et je me dis, bon, il faut que je rende hommage à ma mère. Il faut que vraiment j'écrive ce qu'on a vécu. Mmh. Parce que je l'avais effectivement raconté à des proches. Et souvent, pratiquement tout le temps, elle dit, il faut que tu écrives, il faut que tu lises. Voilà. J'ai toujours aussi voulu écrire un livre, mais je pensais le faire plus tard parce que j'ai d'autres occupations. Mais voilà, c'est vrai que du coup, je veux vraiment rendre hommage à ma mère avec ce
belle
livre.
Réussite, hein, les quelques extraits que j'ai lus. Voilà, moi je suis... si vous voulez en m'envoyer d'autres, ça sera avec grand plaisir. On parlait des figures importantes. Il y en a un que j'aimerais aborder avec vous, c'est Jean-Jacques Rousseau. Qui a été un de vos pères spirituels, en fait, on va dire, hein, que vous avez trouvé sur votre chemin. Alors, c'est un orphelin de mère, il est orphelin de mère très jeune. Sa vie a été marquée par l'errance. Et donc, la philosophie politique de Rousseau est bâtie autour de l'idée que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt. Par naturellement bon, Rousseau, en tant que l'être humain à la tête de nature, a peu de désirs, de sorte qu'il est plus farouche que méchant. Et ce sont les interactions avec les autres individus qui rendent les êtres humains méchants et conduisent à l'accroissement des inégalités. C'est beau, ça.
Ouais, 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 c'est tout à
alors,
fait
ça. Alors, quels ont été vos pères spirituels? Parce que bon, il y a eu Rousseau, mais je crois qu'il n'y a pas que Rousseau, finalement.
Non, mais on peut parler très rapidement de Rousseau, en fait. Oui. Quand je reviens en France, je demande à mon oncle, qui est très littéraire, j'ai envie de découvrir un livre de littérature française, et qu'est-ce que je peux lire? Et donc, il me dit du classique. Je dis, oui, si du classique, ce serait très bien. Donc, il me propose Rousseau, et vraiment, je découvre en fait la... En fait, je pars aux États-Unis enfant. Donc, on parle beaucoup français avec ma mère. Hein, j'ai toujours parlé français. Mais je découvre vraiment cette littérature classique. Et Rousseau, c'est magnifique. Vraiment, c'est
très bien écrit.
Très, 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 très beau. Mm. Et donc, ce sont les rêveries du premier solitaire que je découvre. Et vraiment, mais ça me plaît. Mais c'est beau. Alors, déjà, c'est vraiment... Ça me plaît parce que c'est beau.
Et à quel âge ?
C'est super bien écrit. Donc là, j'ai 20 ans, pardon.
Ouais.
Mais ensuite, je découvre, mais je me reconnais dans presque tout ce qu'il dit.
Ouais.
Oui, oui, oui. En fait, j'aime bien son...
Oui, mais c'est bien parce que vous ne l'avez pas lu trop tôt. Mm-hmm. Ah, voilà, vous l'avez lu à un âge où les jeunes ne lisent pas forcément à 20 ans ce type. Tout le monde ne lit pas à 20 ans ce type de lecture. Et donc, mais vous avez la maturité, justement, pour comprendre.
Oui, je pense. Non, vraiment, oui, j'adore. Et puis, bon, après, des pères spirituels, en fait, parce qu'effectivement, vous me disiez...
Il y a la musique aussi. Vous m'avez parlé de Van Halen, hein.
Voilà,
Bob Seger.
En fait, oui, parce que lorsqu'on en avait parlé, vous m'aviez dit que, n'ayant pas eu de père... la figure...
Peu.
Non, mais c'est vrai, la figure masculine... Mais
parce
en fait,
qu'on n'a pas, on va le chercher ailleurs, en fait.
Ouais,
hein.
Mais c'est, en fait, j'en avais pas conscience, parce que je n'avais pas eu de manque, puisque je n'avais jamais eu de père, donc pas de manque. Mais ceci dit, quelque part, je suis constitué, je deviens un homme, un jeune homme, quand je suis adolescent, et effectivement, je suis très attiré par les musiciens de rock, de métal, parce qu'ils sont ils sont assez virils, etc. J'adore la musique, mais en même temps, ils présentent une image que j'aime bien, quoi. C'est ce côté, l'enfant devient adolescent, l'adolescent devient adulte. Donc c'est vrai que cette image masculine que je n'ai pas, je la retrouve chez les musiciens rock.
Ouais. C'est pour ça que vous avez fait aussi de la musique rock.
Ah oui,
c'est du rock progressif.
Oui, voilà, c'est
mais
ça.
Mais c'est quand même du rock.
Absolument.
Bon. Allez, on va justement rendre hommage aussi à une de vos... moi je l'appelle une cantatrice, mais bon. Donc après le père spirituel Jean-Jacques Rousseau, trois siècles après sa disparition, sa pensée philosophique et politique règne encore. Ça c'était pour fermer la petite parenthèse et dans un autre registre tout à fait différent, mais qui revendique une très grande liberté d'expression. J'ai nommé Nina Hagen. Et pourquoi Nina Hagen?
Parce que, avant tout, c'est ce qu'on entend là, c'est très, 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 très bien produit, c'est magnifique, c'est... en 79, c'est quelque chose de très, très nouveau. Et pareil, hein, c'est l'année où je viens en France, où je découvre, justement, Nina Hagen fait partie des artistes que je découvre, qui ne sont pas du tout connus aux États-Unis. Et elle chante en allemand, une langue que je ne comprends pas et que j'adore, vraiment. C'est superbe. Et sa façon de chanter, effectivement, qui est assez particulière. Et je parlais des hommes qui font du rock, mais... les femmes aussi, et Nina Hagen en est un exemple parfait.
Ouais, ça c'est une personne libre aussi. Hein.
Oui, oui, il n'y a aucune concession, elle fait ce qu'elle veut. En plus, sa vie, lorsqu'on ne va pas rentrer dans sa vie, mais en fait, elle a quand même une vie assez particulière. Et non, c'est une femme libre, indépendante et une artiste.
On écoute, donc, vous dites un de ses chefs-d'œuvre, hein, African Reggae. Vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM et sur le web radio-rgb.net. Of the Rastafari. continue notre voyage au pays de John Pitre. Depuis 2015, vous êtes vidéaste au sein de votre entreprise UbiXzone et photographe. Mais avant de parler de vos expositions et de la reconnaissance de vos pairs pour votre travail photographique, parlez-nous de ce que vous nous offrez au travers d'UbiXzone.
Mais en fait, UbiXzone, c'est une société que j'ai créée, comme vous l'avez dit, et j'offre en fait des prestations audiovisuelles, donc je réalise des vidéos, donc ce sont des vidéos institutionnelles, des vidéos d'entreprise, des vidéos culturelles pour des festivals, donc ça va du clip musical au reportage. Donc des reportages avec interviews d'artistes, je travaille pour...
Le Festival International de Violoncelle de Beauvais notamment.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Je travaille pour beaucoup de structures culturelles et notamment à Beauvais, oui, le Festival International de Violoncelle de Beauvais. Mm-hmm. Où là, je réalise en général chaque année 10 reportages.
Et ouais, c'est vous qui faites toutes les vidéos reportages. J'ai regardé là sur votre blog officiel les concerts et interviews des artistes. Mmh, mmh. Ouais, comme par exemple Victor Julien Laferrière en 2021,
oui.
Et Edgar Moreau en 2022.
Oui, deux grandes figures violoncelles. Ouais. Ouais, ouais.
Alors ça comprend quoi en fait ? Vous faites donc tout ?
Eh ben en fait, donc là justement, UbiXzone porte bien son nom.
Voilà.
Puisque malgré que ce soit un festival international, ça reste quand même un festival, une association avec pas forcément énormément de moyens. Donc ils ont fait appel à mes services avec un budget, un certain budget. Donc je fais presque tout seul.
La prise de son.
La prise de son. Donc je viens, j'installe tout, je fais l'installation, la lumière. Les prises de son et bien sûr aussi les interviews. Donc je me mets derrière la caméra. Alors j'aime pas être vu en interview, mm-hmm. ou même des fois lorsqu'il y a des personnes qui viennent collaborer, je leur demande s'ils veulent être à la caméra, je les filme, mais je leur dis c'est quand même mieux lorsque l'interviewé est vu et nous on est derrière la caméra. Je trouve que j'aime beaucoup ça, mm-hmm. et du coup je me mets derrière la caméra et j'interview. Bon, l'avantage aussi, c'est que lorsqu'il y a des artistes internationaux, on le fait en anglais. Donc l'année dernière, il y a eu Gary Hoffman, un Américain justement, violoncelliste. Et donc cette année, il y a Peter Vispelvi. Mm-hmm. Donc voilà, ce sera certainement aussi une interview en anglais. Et ensuite, bien sûr, je fais le montage.
Montage vidéo.
Je fais la post-production, donc les voix off aussi. Ouais. Hein, des fois, il faut faire des voix off. Mm-hmm. Et là, j'adore. Enfin, j'aime le tournage, mais ce que je préfère quand même, c'est vraiment, vraiment le montage. Mm-hmm. C'est vraiment le reportage prend une dimension autre. C'est toute la... L'identité d'une vidéo est faite avec le montage. Donc ça, c'est ce que j'adore. Ça ressemble un peu à ce que je fais aussi en photo.
Ouais, mais quand on les voit, c'est très bien réussi.
Ah,
voilà, ce que j'aime bien aussi, vous voyez, pour le coup, je trouve que c'est très... J'aime beaucoup la remarque, on ne vous voit pas, vous interviewez, mais on ne vous entend pas. Et finalement, ça me fait penser à d'autres techniques comme les pieds sur terre.
Oui. Enfin,
De cette façon, justement, finalement, peut-être qu'un jour, je ferai pareil.
Ah oui,
on ne sait pas exactement. Mais j'aime beaucoup parce qu'on met justement en relief que la personne.
Surtout qu'aujourd'hui, avec Internet, etc., il y a beaucoup de blogueurs qui se mettent en scène, même des fois de manière un peu extravagante. Mmh. Enfin, je trouve qu'il y en a un peu trop. Et voilà, c'est vrai que ce côté un peu en arrière, c'est pas mal.
Je suis d'accord. Est-ce que vous avez aussi, vous faites aussi pour les entreprises industrielles en France, à l'étranger ?
Oui. Donc du coup, on touche à tout et notamment les industriels. Donc dernièrement, j'ai fait une vidéo pour Massey Ferguson. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Bon, ils ont fait un grand webinaire en 2021. Et donc, c'est une société italienne qui a fait appel à mes services pour faire un making-of, en fait, puisqu'ils ont fait un grand plateau télé, hein, vraiment. Ils pouvaient pas... Enfin, les salons étaient annulés, donc ils avaient fait un webinaire pour présenter un nouveau tracteur, en gros, hein, avec deux présentateurs sur un plateau et le plateau d'à côté, un tracteur dans un grand hangar, vraiment 60 techniciens, 30... je cherche mon mot.
Oui.
Translator.
Translateur, traducteur.
Voilà. 30 traducteurs. C'était vraiment le gros truc. Donc voilà, moi, mon rôle, c'était de filmer, de faire un making-of. Donc ça, c'était vraiment top. Donc, puis après, je travaillais avec d'autres industries. Oui. Avec d'autres industries. Voilà, découpage laser. Donc moi qui viens de la culture, c'est vrai que l'industrie, c'est quand même un secteur qui est vraiment super intéressant parce que c'est toujours des découvertes. C'est vraiment un univers. Quand on ne connaît pas l'univers, on découvre vraiment des choses. C'est vraiment superbe. Voilà, découpe laser, là, j'ai filmé ça, c'était vraiment top.
Allez, on va finir avec la partie photographie. J'ai eu l'occasion de voir vos photographies, une série. Je vais un petit peu plus vite parce que là, je m'aperçois que finalement, ça passe vite. Je suis allée voir votre exposition à Beauvais, à la Galerie d'art associative le 25 mars dernier, une série de photos qui s'appelle Black Dance, excusez-moi. Le travail, moi j'ai vu un travail d'une finesse absolument magnifique. Vous pouvez nous expliquer comment elles se sont... Alors déjà, la genèse de l'histoire, vous avez voulu rendre hommage à quelqu'un en particulier, et puis quelle est l'histoire de comment ces photos ont été créées, et je crois qu'il y en a même une qui a été primée. Voilà. Mmh. Allez-y.
Eh ben, je vais essayer de pas trop m'étendre. donc, en fait, il y avait deux choses. Je cherchais un sujet. Je voulais faire un sujet sombre. J'avais pas fait de projet photographique sombre depuis quelque temps, et donc vraiment, je voulais quelque chose de très sombre et minimaliste. Et donc, je cherchais un sujet que je ne trouvais pas. Et donc, au mois de juillet, je vais chez des proches et il y avait une jolie plante aquatique que j'ai trouvée sublime, des feuilles striées, vraiment des rayures très, très prononcées, sur de longues tiges hautes. Vraiment, c'était très, très épuré, très magnifique. Et du coup, je me rends compte que je tiens mon sujet. Je dis, ça y est, je tiens mon sujet, en noir et blanc, ça va être magnifique, etc. Enfin, bref. Et à peu près une semaine avant, j'apprends que Klaus Schulze, un des musiciens électroniques que j'écoutais quand j'étais enfant, décédé. Donc c'est un musicien culte et qui n'est pas forcément connu du grand public, mais qui a des fans dans le monde entier. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un de très connu
allemand,
dans ce monde-là. Voilà, un Allemand. Mmh. Et donc, du coup, ces feuilles qui sont sur de longues tiges me font penser à sa pochette Black Dance, Time Wind aussi, puisque ce sont des personnages qui ont des jambes très, 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 très longilignes et qui font penser vraiment à cette plante. Et là, d'un seul coup, je dis, j'ai mes deux sujets, je voulais rendre hommage à Klaus Schulze, et une semaine après, je trouve ce sujet-là qui correspond à ma recherche d'un sujet sombre. Et donc l'album de Klaus Schulze s'appelle Black Dance, donc la danse noire. Donc vraiment, tout était
voit, on a vraiment l'impression. Comment vous arrivez à ce résultat, en fait, parce qu'on voit du noir, mais c'est du noir, mais on ne voit pas de noir.
Oui.
Un peu comme Pierre Soulages, quoi.
Oui, c'est ça. J'aurais pu rendre aussi hommage à Pierre Soulages. J'y avais pensé aussi parce qu'il est décédé la même année. Mais en fait, cette plante, mon épouse en fait une bouture que l'on met dans notre petit étang. Et en fait, l'étang, il est surplombé d'arbres. Et donc, il faisait super, super beau, très, très beau. Et donc, il y a de la lumière qui transperce le feuillage et qui viennent comme ça cogner sur les feuilles. Mais vraiment que par endroit. Donc en fait, l'endroit est sombre et tout est fait en lumière naturelle. J'ai pas mis de projecteur, j'ai rien. J'ai vraiment utilisé que la lumière naturelle parce que je savais que je voulais un rendu assez sombre. Et en fait, ce qui était vraiment très, 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 très beau, puisque ce sont des feuilles très, très fines, très droites.
Il y a une grâce.
Voilà, je cherchais les endroits où la lumière tapait sur le côté de la feuille.
Oui.
Parce que justement, là, ça donnait vraiment des angles
très saillants.
Et là, vous
avez vraiment su justement rendre cette partie comme ça... ça fait pas des éclairs, mais
oui, voilà,
on est happé par ce blanc neigeux.
Voilà, parce qu'en fait, on est dans un clair-obscur et donc les parties lumineuses sont très lumineuses avec les rayures, les stries des feuilles et l'arrière-plan ou même la feuille elle-même, l'autre côté de la feuille est vraiment très sombre puisqu'on est vraiment dans une profondeur de champ très 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 étroite, hein, oui. Ce qui permet d'avoir une netteté à un moment donné, et oui. Tout ce qui est avant et après est très flou, oui. Ce qui donne vraiment un aspect très onirique et minimaliste.
Ouais, ben magnifique.
Merci.
Voilà, vraiment.
Merci Fabienne.
Mais là, vous allez pouvoir voir tout ça parce que vraiment, j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. Il faut absolument découvrir ce que fait notre ami Jaune Pitre en allant voir sur son blog Ubique, donc www.ubique-du6zone.com, où vous pouvez aussi le trouver sur Facebook à Jaune Pitre, Pitre P comme Pierre, I comme
Comme faire le pitre.
Voilà, c'est ça, un T-R-E.
Vous n'osiez pas le dire.
Non, mais non, parce que ouais, c'est pas du tout le mot qui me vient comme ça à l'esprit, voyez. Donc, non, je pense qu'on a affaire à un grand professionnel. Donc, on va se quitter, une fois n'est pas coutume, avec une chanson qui vous est qui est très chère à votre cœur. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors ?
Oui.
Oh, il est ému.
Non, c'est pareil, c'est une chanson que j'écoute très peu. Et en fait, c'est vrai que c'était la chanson que ma mère adorait et qui... d'ailleurs, j'en parle dans le livre, au début du livre, donc voilà, il n'y a pas de... Je ne gâche pas de spoiler, comment dire, avec les anglicismes. En fait, c'est devenu la chanson de ma mère et notre chanson, en fait.
C'est votre chanson.
Voilà, c'est ça. Ça parle justement d'un gamin, enfin d'un gamin. Mm-hmm. Elle parle d'une femme, mais ça peut être aussi un homme adulte, mais c'est un gosse, le nouveau gosse de la ville. Voilà, donc c'est un peu moi, c'est un peu elle.
Ouais.
Et c'est notre chanson. Et c'est vrai que l'écouter, c'est quelque chose qui m'émeut.
Elle est magnifique, cette chanson. Et on peut comprendre pourquoi elle vous émeut à ce point-là. Eh bien, nous sommes obligés de vous quitter. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je remercie chaudement Damien Gissa pour la bonne marche de cette émission. Vous pouvez la réécouter en podcast dans l'onglet Les Magazines sur radio-rgb.net d'ici quelques jours. Et on va se quitter donc sur cette magnifique chanson des Eagles, New Kid in Town. À bientôt, John.
Merci, Fabienne.
À bientôt. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come lately, the new kid in town. Will she still love you? Tears on your shoulder. There's talk.